t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, le pissant, mais wie geht's denn schon Mitte September? Mensch, meier flétit si darum. Un peu de dialecte, ma Muttersprache, ça me fait du bien dans le dedans de moi. Yo-yo, André Müller, dis-nous plutôt qui est ton invité ce matin. Aujourd'hui, j'ai vraiment du lourd, un invité connu et reconnu. Il va vous faire voyager autour d'une boisson emblématique alsacienne. Elle est blonde, brune, blanche, ambrée, à chacun sa préférence. Autre indice, ce breuvage est l'une des boissons les plus anciennes et la plus consommée dans le monde, après l'eau et le thé évidemment. Vous avez deviné, chères grandes oreilles, mon invité est intarissable, connaît sa boisson fermentée sur le bout de ses doigts. Salut, invité surprise.
Bonjour, André.
Comment vas-tu?
Ouais, il fait très beau, il fait frais ce matin à vélo, c'est extraordinaire.
C'est génial. Tu t'es présenté. Alors de quoi on va parler? Dis-moi.
De tout ce que tu voudras autour du train, de la bière, de la musique.
Parce que tu t'appelles Bernard Rothmann.
Absolument.
Et tu étais un ancien de la rue Mercière, à l'ombre de la cathédrale.
J'étais le successeur de mon père qui était une légende rue Mercière avec des petits trains et de la radio.
Ok, ben, on va parler de tout ça. Est-ce que tu es tombé dans cette potion magique, la petite mousse?
Non, pas du tout. Jusqu'aux années 80, je n'aimais pas du tout la bière. Et puis un jour, je me suis dit que c'était un gisement à exploiter. Et j'y suis allé. Et alors, d'une idée économique, je suis arrivé à une passion.
Une passion, mais tu veux dire, avant, tu buvais de l'eau ou de la limonade?
Avant, j'avais plutôt un faible pour l'autre boisson emblématique de l'Alsace, le vin. Et pour la Carola.
Le Visvin, le vin blanc.
Visvin, Autoroute, Segor.
Mais la bière, en fait, oui, tu l'as connue dans les années 80.
Je l'ai découverte.
Tu l'as découverte. Et c'était déjà des bières alsaciennes? C'était de la Pêcheur? C'était laquelle que tu...
Alors, pour faire bref, il y avait en Alsace, à l'époque, les brasseries brassaient trois bières en général. Une lager pas trop forte, une plus forte, et éventuellement une bière brune. Voilà, donc le premier qui a donné un coup de pied dans la fourmilière, c'est Michel Debus avec l'Adel Scott.
Ouais, l'Adel Scott, je me souviens
voilà,
bien de lui.
Après, il y a eu pas mal de brasseries qui ont découvert des choses, comme Chute sans Berger, qui s'est bien lancé avec les bières de saison, Météor, qui a envoyé aussi beaucoup de choses, Kronenbourg, qui après a été suivi. Et maintenant, il y a la vague des micro-brasseries. Longtemps, il y a que 6 brasseries en Alsace, des grandes, et maintenant, il y en a plus de 4... Non, 150.
Ouais, parce que tout le monde peut ouvrir une micro-brasserie. Il ne faut pas être brasseur.
Non, c'est un peu un problème parce que c'est un métier quand même hygiénique. On joue avec des choses qui demandent beaucoup, beaucoup de soins et il faudrait mieux avoir des professionnels formés à cela.
Mais il n'y a pas des professionnels qui viennent vérifier puis tout est en ordre, si c'est... Non?
Donc, il y a un problème, il y a évidemment la répression des fraudes, des services de l'hygiène qui débarquent, mais en règle générale, non.
Moi, demain, je peux aller chez Ikea, acheter des poubelles, et mettre des tubulures et faire fermenter de la bière.
Oui, il reste toujours les tribulos, ça empoisonne les gens.
Non, je pense pas, non. Alors, on va quand même parler de cette bière qui est vieille comme le monde. Les pharaons étaient déjà des gens qui étaient friands de cette bière.
Alors, curieusement, le premier code écrit, le code d'Amourabi, parle de la bière. Donc, ça veut dire que déjà en Mésopotamie, à l'époque, on brassait de la bière.
Et ça remonte à quoi? Avant Jésus-Christ, à moins 5
000. Ah oui, largement.
Ouais, largement. Donc, parce qu'on fermentait, c'était par accident qu'on a fermenté ce breuvage.
Il y a plein de choses qu'on a trouvées par accident, par empirisme. Je pense qu'un jour, on s'est rendu compte que le grain fermentait, que ça pouvait se boire. Un gars devait mourir de soif, il a bu une flaque, il a trouvé ça bon. Je sais pas. C'est comme ça que j'imaginais la chose.
Bah ouais, c'est comme le Munster, en fait. C'était aussi un accident hein, avec les mulch. Ils avaient déjà fait fermenter de
comme la
fromage.
Pénicilline et tout, on découvre tout d'un coup accidentellement quelque chose et on a une idée.
D'accord. Alors, je voulais te parler du mot le mot brasserie. C'est là où on brasse la bière?
Alors,
ou on la boit à cet endroit-là?
À partir d'une certaine quantité, on brasse à une brasserie, mais il y a aussi des brassages domestiques, des gens qui brassent chez eux. Et à l'époque, jusque dans les années 60, les femmes brassaient, par exemple, dans le nord de l'Allemagne, c'était encore traditionnel. Bon, c'était une bière qu'il ne fallait pas laisser traîner et qu'il fallait boire, qui avait sans doute un goût très spécial. Après, il y a le mot brasserie, effectivement, on boit. Le fait que les brasseries alsaciennes se sont bien développées vient de l'ouverture de la ligne du Paris-Strasbourg, du Strasbourg-Paris plutôt, qui permettait d'emmener à une vitesse exceptionnelle à l'époque, la bière fraîche à Paris. Et là, on a développé les grandes brasseries parisiennes.
Tu parlais à l'instant de de l'Allemagne, les Allemands, ce sont des grands consommateurs de bière ? Les Bavarois ?
Alors, ils sont battus par les Tchèques. Ensuite, effectivement, il y a les Allemands qui boivent de la bière, mais on boit de plus en plus en France. On était souvent longtemps à la traîne, et maintenant, il semblerait, mais je me fie toujours de ces affirmations, que la bière soit devenue la bière favorite des Français.
Ah oui.
Donc, on est en train, non pas de rattraper, parce que même les Allemands, ça baisse la consommation à cause du permis, à cause de la santé, parce qu'on est un peu plus prudent et qu'on apprécie la bière autrement qu'en grande quantité.
Mais pourtant, c'est les plus gros consommateurs de bière. Hein,
les Tchèques.
Ah, c'est des Tchèques. Oui, ouais. C'est eux qui ont inventé la Pils, hein, je crois.
Absolument.
Ouais, c'est ça.
La Pilsen.
La Pils, ouais. Alors, je voulais aussi te parler du mot bistrot. C'est un mot qui te parle ou pas ? Bistrot.
Bah, une façon de résumer un endroit où on boit essentiellement plus qu'on ne mange. Les origines sont diverses. On parlait des bistrots à Paris à cause des Cosaques qui étaient sur les champs après la guerre de 70 et qui disaient bistra, rapide, rapide.
Rapide, ouais, c'est ça.
Ou alors
ouais.
Bistre parce qu'à force de fumer avant l'interdiction, les murs blancs devenaient bistre.
Ah oui, ok. Alors Bernard, c'est vrai, Bernard Rothman, tu as fait la promo de la bière pendant plus de 40 ans.
Moi, j'en fais toujours. J'ai commencé en 80 et. Ouais. Comme dit, j'ai pris une passion. D'abord, j'ai appris à tirer la bière, ce qui n'était pas évident.
C'est quand même parce que difficile, je faisais tout ça, fond. Non ? Il faut savoir le faire.
Oui, ce sont des gestes simples. Il faut d'abord parfaitement nettoyer sa conduite, ensuite régler ses tirages pression en fonction des bières. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Leleu qui m'a appris tout ça, et les 12 sont devenus les 12 grâce à lui. Voilà. Alors après, effectivement, il faut savoir... garder ses bières dans les endroits frais, savoir nettoyer ses conduites et puis vérifier tout ça, oui.
Parce que des fois, la bière, elle peut avoir un goût quand c'est pas...
Souvent, certains bistrots, je recommande de
boire...
Un goût
métallique, je veux dire, tu vois.
Ouais, ou un goût de levure, ou un goût de vieux, ou un goût effacé. Il vaut mieux, dans certains bistrots, boire la bière en bouteille.
Ah oui ? Ah
ouais. Moi, non, sérieusement, mais moi, ma mission, c'était de servir la bière telle que le brasseur l'avait brassée, qu'elle ait exactement le même goût qu'à la sortie de la brasserie. Ça, c'est le défi.
Ouais. Alors, raconte-moi un peu cette belle histoire, rue Mercière, à l'ombre de la cathédrale, mais tu vas dire à la gloire de la cathédrale. Raconte-moi
d'abord, c'est
ça.
La gloire de la cathédrale, parce que le soleil fait sa course tout autour de la façade, en passant de l'est jusqu'à l'ouest pour nous offrir des couchers de soleil fabuleux. Ensuite, mon père était, après-guerre, une référence parce qu'il était un pionnier de la TSF, la radio. On pouvait réparer sa radio, acheter des lampes, des potentiomètres, des thyristors et je ne sais quoi. Et il avait aussi des petits trains en vitrine qui provoquaient des attroupements phénoménaux quand la rue était encore ouverte à la circulation dans les deux sens.
Mais les petits trains, parce que ton père était amoureux des trains ?
Mon père était amoureux des trains, il adorait voyager en train, il m'a transmis ce virus, et puis il adorait les petits trains, et comme il était très fort en électronique, il préparait des réseaux de trains avec des signalisations, des signaux, des relais.
Enfin, des maquettes choses. Comme ça, des maquettes ?
Des grandes maquettes, oui.
Et t'en avais à la maison alors
que... J'en avais à la maison, mais je me faisais taper dessus à l'époque, enfin sur les doigts, parce qu'à l'époque, les trains en France et en Allemagne, ils étaient tous verts ou gris. La seule chose qui m'intéressait, c'est ce qu'il y avait de la couleur au milieu du train, c'est-à-dire où la voiture lit, qui était bleue, ou la voiture restaurant international qui était bleue, ou la voiture restaurant en Suisse qui était rouge, et donc je faisais des trains qu'avec des couleurs.
Mais qu'est-ce qui te passionne dans les trains ? Pourtant, c'est un transport assez lent. Enfin, maintenant, avec le TGV, c'est différent.
317 à l'heure, même autrement, 160, ça va, sans obstacle, sans bouchon. Non, ce qui me passionne dans le train, c'est que, d'abord, on peut voir par la fenêtre. Ouais. Il y a les grandes fenêtres. Donc, quand on voyage, on découvre les pays où on va. La deuxième chose, quand on voyage en voiture, on voyage avec son odeur, avec son petit pain qui sent bon, et puis avec les mêmes passagers. Et dans le train, on est obligé de découvrir les gens. Quand c'est les trains dans des pays, dans les arrière-pays de Sicile et tout, on est obligé de causer avec les gens, de les voir, et c'est extraordinaire.
Et alors, tu aimes bien les trains à la vapeur, ou les vieilles locaux, ou les TGV
J'aime beaucoup la vapeur, parce que c'est quelque chose d'autonome, de vivre. J'aime beaucoup les belles locaux électriques, surtout les vieilles et les crocodiles avec des bielles, ou même les modernes. Et puis,
dans le Jura, il y en a dans le Jura, il y en a une, je crois, qui est une vieille locomotive.
Ah, il y a plusieurs beaux trains dans le Jura. En Ardèche, il y a quelque chose d'extraordinaire, les chemins de fer du Vieux-Varé.
Voilà, j'ai fait un reportage là-dessus. Et voilà. Tu sais que la vieille loco, elle a été faite ici à
Schiltigheim.
À Schiltigheim, pas...
Yes.
Ah, j'avais entendu.
Les très, très belles mallets.
Oui, je sais.
Alors, il y a deux choses qui sont bien sur ce chemin de fer. C'est que, on peut le parcourir et que c'est une belle distance jusqu'à de tournant à la Mastre. Après, il y a encore un autre pendant de l'autre côté qui va à Saint-Agrève où il y a une très belle brasserie en 100 mètres d'altitude. Mais les anciennes lignes qui ont été déférées s'appellent Dolce Via maintenant, et ce sont des pistes cyclables.
Cyclables, ah oui.
Et parce que, on se rend compte que les ingénieurs de l'époque étaient déjà des écologistes, ah, mais oui, des vrais, qui savaient inscrire le train dans la nature.
Mais ce petit train, en fait, de l'Ardèche, il servait en fait à chercher les légumes sur les hauts plateaux et les ramener dans les villages.
Il servait à trimballer le bois, le vin, emmener les gens
au marché. Alors, t'es dans des canyons extraordinaires. C'est super beau.
Absolument fabuleux. Tournons la masse, extraordinaire.
Ah ouais, c'est beau. Alors, on va quand même revenir un petit peu à tes 12 apôtres. C'est toi qui as donné le nom de cette brasserie?
Alors, historiquement, au premier étage se situait une pension de famille, zum Goldmantel, où venait déjeuner Goethe.
Goethe ? Ah ouais ?
Voilà. Wow. C'est aussi là que, voyant monter Frederica von Brion avec sa mère, il s'est caché au fond du couloir en pensant que la mère venait pour lui dire de l'épouser. Voilà. Donc. Ça devait d'abord s'appeler Goethe-Stube. Je me disais qu'à Strasbourg, j'allais me prendre des cailloux, parce que ça faisait un peu allemand et tout. Et donc, j'étais en voyage et à Vérone, je suis fanat d'opéra, donc j'étais à l'opéra. Et en même temps, j'ai déjeuné dans un restaurant extraordinaire qui s'appelle les Dudeci Apostoli. Et en mangeant, j'ai vu le nom sur l'assiette. Je me suis dit, bien sûr.
Et tu dis, ouais, c'est bien, c'est une bonne...
C'est la scène, c'est tout. Et puis les chiffres 12, c'est un symbole.
C'est un symbole. Alors, tu penses qu'ils buvaient déjà de la bière, les 12 apôtres ?
Ah, écoute, ils buvaient le sang du Christ.
Alors, et c'est vrai, dans ces 12 apôtres, tu avais des marques incroyables de pression. Tu avais plein de bières. Combien de bières différentes tu avais à la pression ?
Dans l'année, on présentait 120 brasseries différentes, donc 150 à 180 bières, en commençant depuis les bières du Nouvel An, les bières de Carnaval, les bières de Mars, les bières de Pâques, les bières d'été, les bières de l'Oktoberfest, et bien sûr, le feu d'artifice final, c'était 14 bières de Noël.
Wow, alors, tu avais ce long couloir, en fait, où il y avait...
Au début, c'était un couloir, oui, avec 63 cm pour le client, il ne pouvait pas tomber à la renverse.
Je me souviens, ouais.
Et après, on a gagné la salle et on a surtout cette terrasse fabuleuse.
Ouais, c'était génial,
la terrasse. À 5 heures, les Alsaciens venaient en vacances, les Strasbourgeois venaient en vacances devant leur cathédrale. C'est merveilleux.
C'était fabuleux. Et tu mangeais des Wirschler, tu avec des Brechtel.
Des Knackwurst,
Des Knackwurst, avec de la Senf, toi, avec... C'était excellent.
Ouais, mais
ça a bien changé tout ça aujourd'hui. Hein. Cette âme, elle s'est envolée. Hein,
on la retrouve encore dans différents endroits, comme chez Perle, à la Birchtoube, ou sur la terrasse de Perle, où il y a de très bons claques et une batterie de bière.
Oui, c'est vrai. Je vais les inviter un jour aussi à la radio, parce que franchement, ils le méritent, je crois.
Mais à différents endroits sympas, comme le marché-bar à la Cruteno, et puis des choses à l'extérieur.
Oui, puis tu as eu beaucoup d'habitués, hein.
Alors, on a eu beaucoup d'habitués, mais ils n'étaient pas purement indigènes. Ils venaient du monde entier. En fait, on a été connus grâce au bouche à oreille et grâce à des gens comme Michael Jackson et Conrad Sayle.
Pourquoi Michael Jackson ?
Parce que c'est pas celui qui aimait les petits garçons. Celui, c'est le grand auteur de la bière, qui d'abord a été fanat de whisky.
D'accord.
Et ensuite a fait la révolution de la bière. Franchement, les Belges devraient lui mettre une statue tellement il l'a fait pour eux.
Ah oui, ok.
Et Konrad Seidel, c'est le Beer Papst. Lui, il est autrichien et il écrit aussi des bouquins phénoménaux.
Mais toi aussi, tu as écrit des choses, des recettes.
Non. J'ai eu tellement de copains autour de moi ou d'amis comme Emil Jung et puis les étoilés ou les Unicettes qui ont fait plein de recettes autour de la bière.
Oui, je me souviens.
Que j'allais pas me frotter à pareille qualité. Mais quelques articles et surtout écrit les scénarios des trains de la bière.
Ah ouais. Bah oui, on en reparlera un peu plus tard, les trains de la bière. On va juste se reposer un peu les oreilles, écouter une petite musiquette des Beatles que tu m'as demandé.
Ah.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, Love was such an easy game to play.
Tu écoutais souvent les Beatles?
Ah ouais, c'était Beatles, Stones, Dylan, surtout Dylan, Nashville Skyline avec Johnny Cash.
Ah, c'est vrai. Ouais.
Non, il y a plein de choses comme ça. Et puis Queen, évidemment.
Bien sûr, évidemment. Mais tu organisais également des concerts avec Harry Lapp,
je crois. Moi, je n'organisais pas. Moi, j'étais l'homme de confiance d'Harry Lapp, celui qui montait les scènes, celui qui affichait, qui collait les affiches. Lui
il ne t'occupait pas de programmation.
Service. Non, non, Harry Lapp était une pointure énorme à Strasbourg.
Un des
meilleurs. Par contre, j'ai accompagné à Londres chez les grands impresarios parce que je baragouinais l'anglais et lui pas vraiment.
Ah ouais.
Et on s'est beaucoup amusé parce que tout le monde lui a dit qu'il allait se casser la gueule. Il a survécu à tous ces monstres.
Ouais, j'ai vu plein de concerts d'Harry Lapp ici.
Écoute, classique, jazz, tout.
Je crois que j'ai vu Tina Turner, j'ai vu plein de choses. Ouais. Écoute, alors on va revenir un petit peu à la bière.
Voilà.
La bière, c'est quand même quand tu as très très soif, il n'y a rien de mieux pour te désaltérer.
Mon épouse dirait le contraire, elle dirait quand je bois une bière, ça me redonne soif.
Bah oui, ça fait consommer, quoi.
Et après, elle va se coucher en disant « Oh, la bière, ça me donne de tourner. » Voilà, non, la bière, oui, si, certaines désaltèrent, d'autres moins, ça dépend ce qu'on cherche comme type de bière, oui.
Et c'est plein de vitamines aussi.
C'est plein de vitamines, c'est plein de bonnes choses, c'est bon pour les cheveux, c'est bon pour la vue,
c'est bon pour
la peau, oui.
Ah ouais, c'est pour ça qu'ils sont beaux tes cheveux. Tu te coiffais avec de la bière.
J'ai de la chance d'en avoir encore. Non, la bière c'est bien, et surtout que maintenant il y a un nouveau domaine qui se développe, c'est la bière légèrement alcoolisée ou sans alcool. Objectivement, parfois,
sans alcool,
les bières,
ça n'a pas de sens. Sans alcool,
c'est un goût que les gens veulent retrouver. Alors jusqu'à longtemps, ça avait un goût vraiment pas agréable.
Ouais.
Là, maintenant, on arrive à faire des choses très sympathiques avec les nouvelles techniques. Et c'est surtout vrai quand ce sont des bières de ce qu'on appelle des bières blanches et des bières de froment qui ont plus de pétillant et un autre goût. Et là, ça devient vraiment agréable. Objectivement, j'ai emmené des groupes et des gens très, très expérimentés en brasserie en Suisse qui étaient très en avance dans ce domaine où le matin, première bière qui était servie à 11h ou 10h30. C'était une bière sans alcool. Et moi, je savais ce qu'ils allaient servir. Je disais, je peux en avoir une autre. Et je me dis, t'as tort, elle est très bonne celle-là. Je dis, pardon, messieurs, vous êtes à la seconde sans alcool.
Et alors, la bière, elle est alcoolisée de quoi? De 3, 4 degrés?
Non, ça va. En général, la bière traditionnelle, c'est 4, 5, 5, 6. On a une tendance à aller à des bières fortes actuellement. Sur les bières spéciales, les bières fortes, on peut aller jusqu'à 12, 13 degrés, mais ce ne sont plus vraiment des bières. Ou alors, ce sont des concentrés par glaciation.
Alors, tout à l'heure, tu parlais de train. C'est vrai que tu organisais des voyages, t'emmenais les gens. Le train de la bière, raconte-moi un petit peu cette histoire du train de la bière.
J'avais un problème de nos apôtres. D'abord, j'ai appris à tirer les bières correctement, donc j'avais un plus avec mes clients. Ensuite, je me suis intéressé, je vais pas rester dans mes quatre murs, et je suis sorti pour voir de nouveaux brasseurs. Et quand je racontais ça à mes clients, ils me disaient, t'es un type absolument inintéressant, ingrat, on va plus revenir. Je dis, pourquoi? Mais on peut pas voyager. De là, on est parti sur les bus d'abord. Après, on a organisé plein de sorties à pied,
à vélo. Ça remonte à quand, ça? C'était quelle année, ça?
Ça a commencé en 84.
Ah ouais, wow.
Avec des bus pendant 3-4 jours, on était invités chez les brasseurs. On a toujours été extrêmement bien reçus par les brasseurs. Et puis, ça a été un wagon que j'accrochais à des trains normaux, comme le Paris-Lindau, quand il y a encore les FFA, pour aller au lac de Constance, ou un train qui allait en Suisse en utilisant quatre compagnies chemin de fer différentes dans les Alpes de l'Appenzell, où il raccrochait le wagon.
Tu mettais combien de personnes dans ces trains?
Là, on mettait 50 personnes au début. Et puis, quand j'ai voulu refaire un wagon, on m'a dit, c'est impossible, il y a une nouvelle technique. On n'a plus assez de monde pour accrocher les wagons le samedi et le dimanche. Il faut faire un train spécial. J'ai dit, c'est quoi un train spécial? Il dit, c'est 4-5 wagons. Puis bêtement à Munich, un jour, j'étais avec toute la direction de la grande brasserie Spaten et consul de France. Et le gars me dit, alors vos trains, vos wagons, vous faites toujours ça? Je dis, mais j'ai envie de faire un train. Et le Bavarois, il éclate d'oreille. Il dit, c'est un train, je vous invite. J'ai dit, monsieur le consul, vous êtes témoin? Oui. Et l'autre pensait que c'était du blabla ou 200 personnes, et à la fin, on est arrivé avec 600 personnes.
Waouh, c'est énorme!
Avec plein de chaînes de télé et tout. Et
je me souviens, on y était un jour, j'étais avec toi.
Et c'était de la folie furieuse.
Dans le Jura, tu m'avais emmené.
Jura, ça c'était le chemin de fer du Jura. C'est vrai qu'à SNCF, qui s'est remontré sous un jour absolument remarquable.
Tu nous avais mis, nous les journalistes, dans un train un peu pullman, comme ça, un peu cossu.
Les journalistes ont toujours droit à un traitement un peu spécial, parce qu'ils aiment bien ça, mais en général...
Mais c'était génial.
À leur avantage, ils apprécient, mais après, ils vont se mélanger.
Ah ouais. Mais ouais. Je me souviens qu'on était sur une, dans une sorte de cagnole, sur une hauteur, et en bas, il y avait un précipice, et le train s'était arrêté pour qu'on puisse regarder le...
Oui, c'est la, ce qu'on appelle la ligne des Hirondelles dans le Jura.
Voilà, c'est ça.
Recommandé entre Mouchard et Champagnole et Morey pour arriver à Rousse.
Mais les trains circulent toujours là-bas, tu penses ? Les trains de
ils tourisme. Circulent toujours jusqu'à Saint-Claude. Après, ils ont arrêté la ligne. Mais on verra, peut-être qu'ils vont faire quelque chose, comme dans les Vosges, où ils ont remis la ligne de Saint-Dié à Épinal en marche. Et on va l'utiliser peut-être l'année prochaine pour un train de la bière.
Ah ouais, c'est une très très bonne idée, ça. Tu m'inviteras ? On verra si je suis sage.
Des gens qui voudront venir pourront s'inscrire.
Ah oui, moi je m'inscrirai, c'est tellement chouette. Alors je me souviens aussi, ce train du Jura, on est allé voir les Salines Royales.
Ouais.
À la fin, là, on a visité ça. C'était grandiose.
L'exercice du train, c'est de prouver que la bière est une boisson qui rafraîchit, c'est pas une fin en soi. On vient pas à bord du train pour picoler, mais on vient à bord du train pour découvrir, rencontrer des gens. Donc,
pour visiter.
Il faut absolument qu'il se passe quelque chose par la fenêtre, parce que sinon, si on devait faire un train un jour de pluie, je pense que je ramènerais, il y aurait des ambulances à l'arrivée. Mais là, ça se passe toujours bien, les gens découvrent plein de choses, ils regardent par la fenêtre. Et
ouais, puis c'est aussi
il faut rentrer plus intelligent qu'on est parti.
Ouais, et tu as raison de dire ça, et c'est aussi un train gastronomique, parce que tu avais des chefs étoilés, je me souviens
bien.
Alors,
on a toujours eu plein de monde, entre 13 et 18 macarons Michelin, on a eu des troupes, d'abord Unicette, ensuite Étoile d'Alsace avec Maurice Requel, ensuite des gens de cuisine du Jura et différents autres chefs. On a toujours eu une très, très belle intendance.
C'est vrai, je reconnais. On va reposer un petit peu le temps parce qu'on papote, on papote. On va écouter un peu du David Bowie. Je crois que tu aimes bien ça.
J'ai découvert.
Que tu as découvert. Tu l'avais rencontré lors des concerts que tu organisais avec Harry Lapp
Non, Harry Lapp n'a pas fait de concert avec Bowie, mais on a fait Supertramp, on avait Chuck Berry, on a fait Queens, on a fait
Queens Bilalé. À Strasbourg.
Ouais, wow. Queens à Strasbourg, c'était ce que j'ai vu de plus fort, Manfred Mann et compagnie.
Ah ouais, ça devait être extraordinaire.
Et Memphis Slim et Ray Charles, et puis Carlo Maggiulli, Philharmonic de Los Angeles, Baron Boy, enfin bon.
Ouais, c'est bien. Alors, je sais que David Bowie, il avait les yeux verrons. Hein. Il avait un œil jaune et l'autre l'œil vert.
Comme dit, je suis un peu passé à côté. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'au fond, ça me plaît bien.
Qu'est-ce qui te plaît bien ?
David Bowie, c'est
sa musique ?
Oui, sa musique me plaît bien. Mais j'étais un peu passé. J'avais vu dans un film où il était une sorte de mutant qui est au cinéma, qui était pas mal, mais bon.
Ouais, il était assez décalé, il était assez... intéressant.
Ouais, mais il m'a l'air sympathique, en fait.
Ouais, moi aussi, j'aimais bien, ouais. Alors, revenons un petit peu à nos moutons. On va reparler un peu de la bière. Il y a des recettes qui sortent de l'ordinaire quand on cuisine avec de la bière. Un bake-off à la bière, par exemple.
Alors, la première chose, c'est qu'on peut faire mariner. On peut préparer, faire des préparations à base de bière. La seule chose, alors vraiment pour les auditeurs, c'est surtout ne jamais utiliser une bière houblonnée type Pils ou autre. Il faut vraiment faire attention à sa bière. Parce que quand on cuisine avec cette bière-là, quand on chauffe, le houblon sort de plus en plus. Et on a vraiment beaucoup d'amertume, sauf si c'est pour une recette très, très spéciale.
Tu veux autrement, la choucroute à la bière, par exemple ? Non.
Oui, enfin...
Mais bon, il faut prendre de la pression ou il faut prendre une bouteille?
Non, ça, peu importe, là, on peut prendre des bouteilles. D'accord. On ne va pas monter une pression à la maison. Et ramener un fût de 30 litres pour faire une recette. Non, mais il faut utiliser les bières assez denses. Ou alors, les bières brunes sont parfaites pour laquer, pour faire des jarrets et tout. Il y a différents bouquins. Il y avait un bouquin extraordinaire, Toqué de bière, qui a été fait par les Étoilés. Il y a d'autres bouquins qui ont été faits par Chute sans berger, avec plein de recettes. Et puis, on trouve actuellement beaucoup de recettes à la bière.
Oui, par exemple, le pain, par exemple. Le pain à la bière est très à la mode.
C'est tout à fait normal.
Tous les boulangers
le font. Oui, mais il ne faut pas des bières pasteurisées parce qu'il n'y a plus de levure. Donc, il faut, en fait, ce qui est intéressant dans la bière, c'est la levure qui est dedans. Ça fait lever la pâte.
Ah bon, d'accord. Et toi, tu cuisines un peu chez toi?
Mon épouse, oui, mais elle boit plutôt la bière plutôt que de la cuisiner.
Mais tu cuisines à côté d'elle? Tu fais des recettes?
Non, j'ai assez à se faire en cuisine. Tu
n'as pas le droit d'y aller?
Non, c'est pas ça, ça se passe bien, mais bon. Bon, je vais prendre mes revanches bientôt.
Tu fais pas la vaisselle, sans doute.
Parce que si, tu sors trop de vaisselle. Je fais la vaisselle, ça, je sais faire. aux 12 apôtres, les centaines, des millions de verres que j'ai nettoyés, ça va, je sais faire.
Ouais. Tu vas des fois encore aux 12 apôtres, tu y retournes?
Je retourne à la cathédrale aux 12 apôtres actuellement, non, pas vraiment.
Ouais, ça a vachement changé. Hein.
C'est ce qu'on me dit.
C'est plus pareil. Moi, j'y vais. Des fois, je me suis arrêté avec des amis là-bas, mais ton âme, ta gentillesse, elle n'est plus là, quoi. Tu vois, je vais dire.
Peut-être que ça reviendra un jour, pas avec moi, mais avec quelqu'un d'autre.
Avec quelqu'un d'autre, ouais. J'ai bien l'impression que ça ne se passe pas si bien que ça, avec ceux qui sont
comment.
En place. On ne dira rien. Tu sais beaucoup de choses, mais on ne dit rien. En tout cas, la bière, c'est. Moi, je trouve que la bière, c'est magique quand tu bois une bonne pression. Il n'y a pas mieux, quoi. C'est quoi ta pression préférée?
Oh, ça c'est comme pour le vin à table, selon le plat, selon le jour, selon la température.
Ah ouais. Écoute, en tout cas, c'était très sympa de t'entendre parler de bière, de ta passion des trains et de la bière. Et j'espère qu'on sera bientôt du voyage pour le prochain train à la bière. On verra ça un peu plus tard. En tout cas, merci Bernard d'être venu ici nous raconter ta passion
et
passer de ce bon breuvage qu'est la bière. À bientôt.
À bientôt.
Morskud, salut.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.